Chiffre du jour, 96,49% de non à l'indépendance dans le référendum néo-calédonien. Question pour vous, Yves Jégo. Vous souhaitiez le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, vous réjouissez, mais que valent vos réjouissances ou celles du président Macron quand l'abstention que préconisaient les indépendantistes a atteint le score de 56%?
Mais je crois que si on regarde que le score d'hier, on n'a rien compris. Le processus, c'était trois interrogations. C'est trois référendums. Il faut regarder le résultat des trois référendums qui, pour l'un, donnaient 56%, pour l'autre 53% et pour le dernier, effectivement, face à l'appel à la non-participation, à l'abstention, ce chiffre qui n'a pas de valeur en lui-même. C'est au fond, la valeur, c'est ce processus de longues années et c'est qu'est-ce qu'on dit trois fois de suite les Calédoniens. Et ils ont dit trois fois de suite à peu près la même chose. Ils ont dit qu'ils voulaient rester au sein de la République française. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle étape. Moi, c'est ni triomphal, ni quoi que ce soit. Le résultat d'hier, il est très partiel. Il n'explique pas tout, mais le résultat des trois référendums doit être pris en compte. Sinon, ça aurait servi à quoi qu'on en fasse trois si on n'en lisait qu'un sur ce sujet? Il faut bien regarder l'ensemble de ce processus, qui est d'ailleurs très original. Hein. Les Anglais, on ne leur a pas fait voter trois fois pour savoir s'ils voulaient quitter l'Europe.
François Iracaré.
Je crois qu'aussi, pour reprendre le terme de M. Jégo, je crois qu'on n'a aussi rien compris parce que ce scénario qui s'est présenté dans le cadre de ce troisième référendum, avec la position politique effectivement, du FNKS d'appeler à la non-participation, rappelle étrangement à ce fameux référendum du 13 septembre 1987 où le statut pense, où l'État a voulu nous imposer effectivement dans des conditions assez particulières, voire de déni de l'existence du peuple kanak. Et là, on se retrouve dans ce même scénario pour la date de décembre. Donc les résultats, pour nous, elles ne comptent pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement à en tirer effectivement des leçons, voire des perspectives. Puisque...
Non, pardon, vous souhaitez qu'on vote à nouveau? Vous souhaitez qu'il y ait à nouveau un référendum et que celui d'hier soit annulé?
On souhaite pour l'instant rien de particulier pendant cette période jusqu'aux échéances des élections présidentielles. Et donc, pour faire écho effectivement au discours dernièrement du président de la République, je trouve que dans son discours, il n'a pas relevé ne serait-ce que la moindre allusion ne serait à la position, des indépendantistes, mais à l'existence même. C'est-à-dire c'est le même déni, le même scénario.
L'existence du peuple kanak.
L'existence du peuple
auquel le président ne s'est pas adressé hier directement.
Auquel ne s'est pas adressé directement, auquel il a marqué effectivement une certaine indifférence quand les indépendantistes ont demandé le report juste de cette date dans les conditions sanitaires auxquelles on s'est retrouvé, et surtout le traumatisme et le non-respect effectivement des rituels funéraires kanak.
Vous demandiez un report de combien de temps? Plusieurs mois?
On demande un report quand les conditions sanitaires et quand les conditions correctes
après
consultation sérieuse soient réalisées.
Sarah Mohamed Gaillard, est-ce qu'on est dans une situation totalement absurde? Hier, on a vu les villages kanak qui ne votaient pas, les quartiers kanak qui ne votaient pas. Où en est la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Est-ce qu'elle est entrée dans un nouveau processus, comme on l'entend, ou est-ce qu'elle est dans une impasse?
Je ne sais pas si c'est absurde, mais en tout cas, c'est quand même une occasion manquée, parce que ce référendum, il ne peut pas avoir de valeur politique. Je vous dirais exactement la même chose si, finalement, si les indépendantistes avaient appelé à une mobilisation massive, parce que très certainement qu'on aurait eu un résultat très serré. Quel que soit le résultat, en cas de forte mobilisation comme ça a été pour le premier et le deuxième référendum, ça aurait été un clivage entre deux parties de la population. Or, pour construire une nation, pour construire un destin commun...
Ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux résultats et aux chiffres. La problématique, c'est après. Comment se réconcilier et construire, co-construire.
Voilà, la difficulté, c'est un référendum binaire. C'est oui ou non.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu poser comme question?
Peut-être un référendum sur un projet qui soit présenté, travaillé avec la société calédonienne. Là, évidemment, ce référendum, voilà, il a une valeur légale, mais politiquement, qu'est-ce qu'on va en faire? Ces trois référendums qui ont vraiment fait ressurgir des tensions en Nouvelle-Calédonie, on voit bien que c'est un clivage communautaire derrière un clivage politique, électoral. Donc la question, c'est comment on fait? Comment les Calédoniens...
Les Caldoches.
Les loyalistes,
Un peu plus de la moitié de l'électorat sont contre l'indépendance. Les Kanaks, les indépendantistes, un peu moins de la moitié de l'électorat sont pour l'indépendance.
Oui, il y a à peu près
40%. Et on n'a pas bougé depuis le début.
Il y a à peu près 40% de la population qui est Kanak. Tous les Kanaks ne sont pas indépendantistes, mais le vote indépendantiste est majoritairement Kanak. Il y a aussi d'autres communautés océaniennes qui peuvent voter indépendantiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'en vu la démographie, on ne peut pas faire sans un peuple premier. Et ça aussi, c'est un enjeu extrêmement important. C'est pas un vote, c'est pas un référendum tout à fait comme un autre. il y a la question d'un peuple premier à l'autodétermination.
La question qui se pose toujours, c'est qu'on lit avec nos yeux d'aujourd'hui des décisions qui viennent d'il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, tout le monde était d'accord pour aller vers ces référendums et vers ce dispositif pour sortir de ce qui était déjà une crise terrible, les images l'ont rappelé. Donc moi je pense qu'on a toujours tort d'essayer de vouloir plaquer les raisonnements d'une génération sur ce qu'a essayé de faire la génération d'avant.
Qu'est-ce qui a changé en 30 ans dans ce cas ?
Mais tout a changé, le monde a changé, les enjeux ont changé, il y a toute une génération de jeunes
vous en avez un à côté de vous.
De Nouvelle-Calédonie qui n'étaient pas nés à ce moment-là. Ouais. Et qui n'a pas connu autre chose. Il y a des perspectives qui étaient celles des aînés qui ne sont pas celles d'aujourd'hui.
Laissez parler ce jeune qui n'était pas né il y a 30 ans. Oui. Vous avez 30... Quel âge avez-vous ?
Je suis plus, un peu plus...
Ah, bah vous avez... Je ne dirai pas. Non, mais...
Je voudrais juste rebondir sur le propos de M. Jégo, parce que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'effectivement, la situation et le contexte politique actuel n'a strictement rien à voir il y a 30 ans de ça, donc on est d'accord sur ce point-là. À la seule différence, c'est que l'appréciation que le gouvernement actuel et le président de la République est basée sur des critères, voire sur un scénario de déni. C'est-à-dire qu'on se retrouve, nous, avec une appréciation de la situation sur la base de ce qui s'est passé en 87 et qui a été effectivement le fruit de l'accord de Matignon-Oudinot et de l'accord de Nouméa. La question, c'est de savoir
il y a plein de références qui sont votre histoire, qui sont éloignées des préoccupations, on va dire, du peuple français métropolitain. Juste pour éclaircir, Sarah Mabel-Gaillard, théoriquement, institutionnellement, c'est ce que disait le président de la République hier, on entre maintenant dans une nouvelle période de discussion, de négociation, pour trouver un statut, sinon définitif, du moins durable à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les forces en présence sont prêtes à discuter, selon vous, et discuter avec l'État ?
De toute façon, cette période de transition, elle est obligatoire, quel que soit le résultat. La grande difficulté, c'est qu'elle dure 18 mois, et les indépendantistes, c'est court, 18 mois, pour régler l'avenir d'un pays. Et les indépendantistes ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas négocier avant l'élection présidentielle. Ça aussi, la chronologie a une importance. Le fait qu'un référendum... Oui, parce que finalement, c'est peut-être engager des tractations qui peuvent complètement échouer, ou en tout cas, s'il y a une autre majorité, être remise en cause. Mais ce qui est quand même certain, c'est que 18 mois, c'est bref. Ça va sans doute être beaucoup moins que 18 mois, puisqu'il faut attendre l'élection présidentielle. Et c'est ce que je disais, c'est cette chronologie entre le référendum et la campagne présidentielle qui a débuté. C'est pas favorable non plus à un dialogue serein, à une campagne sereine. Donc, maintenant, il faut renouer le dialogue. Sauf que cette période référendaire a quand même mis pas mal d'accrocs dans un dialogue déjà difficile.
On n'a pas une étude comparative par rapport à la Guadeloupe, parce que je ne connais pas du tout la situation en Guadeloupe, voire les Antilles ou ceux des départements de l'océan Indien. Ce qui est important de souligner, c'est que l'accord de Matignon et Oudinot et l'accord de Nouméa ont confirmé effectivement une large autonomie, à la fois une large autonomie institutionnelle et politique. Donc avec une reconfiguration administrative, avec trois provinces, deux provinces qui sont gérées par les indépendantistes, un parlement, l'équivalent d'un parlement qui est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a une force législative, et un exécutif qui est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc à ce niveau-là, on a des compétences particulières pour les trois provinces et pour le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc je pense que pendant ces 30 ans, on a une expérience très très large, effectivement, d'une autonomie. La Nouvelle-Calédonie est un statut sui generis.
Oui, c'est pas toujours lisible depuis la métropole. Ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe. On est vraiment sur un territoire de très large autonomie. On pourrait le comparer à la Polynésie française, qui a aussi bénéficié d'une large autonomie, même si elle est différente. Il y a d'ailleurs des problèmes sous-jacents. Il y a aujourd'hui un manque de 500 millions dans les caisses du gouvernement, avec des difficultés de gestion, avec un appel à l'État pour combler un certain nombre de déficits qui ont...
Les difficultés de gestion sont effectivement sont un héritage du gouvernement précédent.
Je ne viens pas juger d'où elles viennent. Je veux dire qu'il y a derrière cette autonomie aussi ces débats, et que je rejoins ce qui a été dit sur le délai. Je pense que 18 mois, c'est un peu court pour réussir à faire quelque chose. Moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable d'attendre l'élection présidentielle, parce qu'effectivement, on peut se dire que les aléas de la vie politique nationale peuvent avoir des conséquences sur ce qui se discuterait. Et qu'au fond, le défi, c'est de trouver un nouveau modèle qui reste à inventer. Mais l'autonomie est déjà extrêmement large.
Les questions politiques et les questions culturelles, vous parlez de l'existence de deux peuples en Nouvelle-Calédonie. Il y a en plus des problèmes sociaux absolument dramatiques. Le peuple kanak, la jeunesse du peuple kanak, est dans un état de déshérence sociale. Comment peut-on avancer politiquement quand sur tous les problèmes politiques se greffe en plus une telle injustice ?
Je crois d'abord qu'il faut quand même rappeler que c'est un problème de décolonisation. Il ne faut pas oublier l'histoire longue de la Nouvelle-Calédonie. Une colonisation qui, par essence violente, laisse des traces, laisse des traumatismes. Il y a des legs qu'il faut pouvoir dépasser. Dans ces legs, il y a notamment des inégalités sociales qui sont beaucoup plus criantes qu'en métropole. Donc derrière des réussites kanak, il y a aussi une jeunesse et plus large. Pas qu'une jeunesse, hein, mais plus largement des familles kanak qui vivent dans des conditions qu'on n'imagine pas depuis la métropole. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau potable.
Il n'y a pas d'eau potable.
Il n'y a pas de connexion à Internet. Donc il y a des clivages au sein même d'un territoire qui est assez étroit avec une démographie limitée.
Le territoire grand comme le Limousin, hein, voilà. Redisons, c'était comme grand comme
le département. Moins 300 000 personnes, et il y a des clivages extrêmement importants, et donc il y a eu beaucoup d'efforts faits depuis 30 ans, il y a eu beaucoup d'avancées, mais les clivages restent importants, il faut réussir à les dépasser.
François Héracaré, est-ce que, je crois que c'est l'ONU qui le dit, est-ce que vous considérez que la Nouvelle-Calédonie est encore un territoire à décoloniser ? En dépit des accords, en dépit de l'autonomie, en dépit d'un gouvernement autonome.
Ah oui, je vous réponds que c'est encore un pays, effectivement, qui est encore inscrit dans la liste des pays à décoloniser.
Et vous ressentez-vous comme colonisé, encore aujourd'hui ?
Bien évidemment, il y a un état de fait. Il y a un état de fait, effectivement, d'une histoire coloniale qui a été reconnue, effectivement, grâce à l'accord de Nouméa, dans le préambule. Il y a une histoire, effectivement, coloniale. Il y a aussi toute une longue histoire de dépendance, de dépendance économique, de dépendance vis-à-vis de la France. Et donc, ce sont des interrogations et des questions qui doivent être posées à l'ensemble des protagonistes. C'est-à-dire que cette question de dépendance, on parle effectivement de transfert d'argent, on parle de la question du nickel, etc. Ce sont des questions qui sont réellement prises en sérieux par les indépendantistes et donc par tout le monde, à la seule différence que les loyalistes, eux, ne se posent pas la question. C'est-à-dire que la question de la dépendance au niveau de la fiscalité, etc., ça ne le pose aucune... Enfin, en tout cas, ça ne leur pose aucun problème, effectivement, de continuer à bénéficier des transferts, effectivement, de la France sur certains fonctionnements. Alors qu'il est impératif depuis les 30 années d'accord de Matignon et d'accord de Nouméa qu'on puisse enfin se poser la question de comment peut-on, avec les ressources, avec la zone économique exclusive et la production du nickel, mais même le secteur tertiaire qui doit être développé, donc pour justement contrebalancer ces transferts.
Gardons justement à propos du nickel que vous citiez.
Que ce soit sous forme de minerai brut ou de métal, c'est un trésor local qui attise les convoitises et les tensions. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie détient un quart des réserves mondiales. Or, pour la fabrication de ces batteries, qui servent notamment à nos voitures électriques, la Chine consomme à elle seule la moitié du nickel de la planète et deux tiers de la production calédonienne. Elle a donc besoin de sécuriser cet approvisionnement. Ce qui aiguise également l'appétit chinois réside dans la position géographique qu'on peut qualifier d'idéale de la Nouvelle-Calédonie. C'est la pièce maîtresse qui permettrait, comme on le voit sur la carte, à la Chine d'élargir son contrôle sur ce qu'on appelle l'arc mélanésien. Elle a d'ailleurs déjà largement investi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les îles Salomon, au Vanuatu, encore au Fidji. Et pour mieux s'implanter dans la région, la Chine est soupçonnée de manœuvrer en faveur du séparatisme en soutenant les indépendantistes. C'est ce que révélait un rapport qui a été beaucoup commenté, y compris ici, un rapport de l'Institut français de recherche stratégique de l'école militaire. Jégo, est-ce qu'on peut considérer que la Chine attend plus ou moins patiemment son tour et qu'elle est en embuscade, comme elle l'a été notamment sur le continent africain ?
Il ne faut pas être naïf, c'est exact. C'est que si, imaginons que les trois référendums aient donné un résultat négatif et que nous allions vers l'indépendance, la Chine mettra les mains économiquement et colonisera économiquement mais comme elle le fait en Afrique. Mais il n'y a pas un pays d'Afrique où il n'y a pas une forme de colonie économique des Chinois, au plus grand d'ailleurs rejet des populations qui finissent par ne plus en pouvoir. Et c'est une évidence absolue, c'est d'ailleurs un des problèmes géopolitiques de cet endroit, et c'est une des raisons sans doute qui a fait que le vote a été dans le sens où il a été, parce que beaucoup d'électeurs comprennent bien et sentent bien qu'au fond, la France, avec tous ses défauts, je veux bien entendre ce qu'il
dit. Et à 18 000 kilomètres.
Avec toute son histoire, avec tout ce. À 18 000 kilomètres, reste quand même un protecteur beaucoup plus puissant que ne serait demain la Chine, qui ne prendra ni gants, ni